de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir chers auditeurs, comment ça va? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et les chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Chers amis, bonsoir. Voici le bulletin de l'information. Tout d'abord, les titres de l'actualité. 4 entreprises internationales ont été rejointes par le gouvernement provincial des îles Bangka Belitung pour étendre le marché d'exportation du poivre. Le ministère de l'Agriculture détruit les champignons enoki de Corée Sud parce qu'ils contiennent des bactéries. PTPP prévoit d'augmenter les relations économiques entre l'Indonésie et la Turquie. L'objet touristique Wakatobi sera de nouveau ouvert au début juillet 2020. Le ministre de l'Agriculture exporte les produits agricoles de Java oriental vers 17 pays. Voici le bulletin complet. Le gouvernement provincial des îles Bangka Belitung collabore avec 4 entreprises d'envergure internationale pour optimiser la promotion et la commercialisation des producteurs de poivre blanc dans la région. Le gouverneur des îles Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan, jeudi à Pangkal Pinang a déclaré que la coopération dans la promotion et la commercialisation du poivre blanc avec les 4 sociétés internationales devrait augmenter les exportations, les prix et le triomphe de poivriers sur le marché mondial. Jusqu'à présent, le marché du poivre blanc de Bangka Belitung à l'étranger a tendance à stagner, tandis que d'autres pays producteurs de poivre, comme le Vietnam, l'Inde et la Malaisie, continuent de développer massivement le marché. Le ministère de l'Agriculture, par le biais de l'Agence de sécurité alimentaire, a ordonné aux importateurs de retirer et de détruire les produits à base de champignons enoki de Green Co. Limited en Corée du Sud. Cela est dû aux informations du réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments Anfosan, un réseau d'autorités internationales de sécurité sanitaire des aliments relevant de la OAA-OMS. Les informations sont liées à des événements extraordinaires survenus en mars-avril 2020 aux États-Unis, au Canada et en Australie, à raison de la consommation de champignons enoki de Corée du Sud contaminés par la bactérie Listeria monocytogène. Le chef de l'Agence de sécurité alimentaire du ministère de l'Agriculture, Agung Hendriadi, a déclaré jeudi à Jakarta que l'extermination avait eu lieu le 22 mai 2020 et le 19 juin 2020. Agung a affirmé que jusqu'à présent, en Indonésie, aucun cas extraordinaire n'avait été trouvé à raison d'une contamination bactérienne par le champignon enoki. Cependant, il a mené une enquête et échantillonné des produits de champignons enoki auprès de producteurs en Corée du Sud. PT PP Persero TBK, une entreprise publique de construction et d'investissement, espère accroître les relations économiques et commerciales entre l'Indonésie et la Turquie après la tenue récente d'un forum commercial virtuel par les deux pays. Le directeur de PT PP, Novel Arshad, a déclaré jeudi dans un communiqué écrit à Jakarta que la mise en place du forum virtuel des affaires devrait encourager l'intensification des relations bilatérales dans l'économie et le commerce entre les deux pays. Dans cet événement, le gouvernement de l'Indonésie était représenté par le ministre des Travaux publics et du Logement public, Basuki Hadi Mulyono, et le gouvernement de la Turquie, représenté par le ministre du Commerce, Ruslan Peksan. La réunion vise à accroître la coopération entre l'Indonésie et la Turquie au niveau du gouvernement à gouvernement, du commerce inter-entreprise et du partenariat public-privé, en particulier dans les infrastructures. Le gouvernement de la région Swakatobi, au sud-est de Sulawesi, rouvrira les visites touristiques aux touristes locaux et étrangers en juillet 2020. Le chef du bureau du tourisme de la région Swakatobi, Nadar, alors qu'il était à Kendari lundi, espérait que les visites touristiques locaux et étrangers pourraient être rouvertes au plus tard début juillet 2020, en tenant dûment compte des dispositions du protocole sanitaire de COVID-19. Il a déclaré que pendant la pandémie de COVID-19, qui a débuté de mars à juin de cette année, il n'y avait pratiquement pas eu de visites touristiques locaux, nationaux ou étrangers, car il n'y avait pas de flux de transport, surtout par avion. On dit qu'à l'heure actuelle, le gouvernement, par le biais de l'équipe du groupe de travail COVID-19 de Régence et de Provence, a proposé de rouvrir immédiatement l'itinéraire de visite tout en respectant le protocole de santé. Le ministre de l'Agriculture, Syahrul Yassin Limpo, a exporté jeudi 9 produits agricoles d'un poids total de 2190 tonnes de la province de Javaès vers 17 pays au bureau du Centre de quarantaine agricole de Surabaya, Sidoarjo. Syahrul Yassin Limpo, après le communiqué d'exportation, a déclaré que le ministère de l'Agriculture, par le biais de l'Agence de quarantaine agricole, avait noté une augmentation du nombre de produits d'exportation de janvier à la mi-juin 2020. Il a apprécié la performance de tous ceux qui ont continué à produire pendant la pandémie. Il a expliqué que la Libéria, l'Égypte, les États-Unis, le Pakistan, la Grèce et la Finlande figuraient parmi les 17 pays à exporter jeudi avec divers produits tels que le café, la farine de cacao, le nid d'hirondelle, les aliments pour poulet, les pré-mélanges et la farine de cacao. Chers amis, c'était le bulletin de l'information de la Voix de l'Indonésie, Jakarta. Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Nusa Tenggara Est. La propagation de COVID-19 dans divers pays est très élevée, y compris en Indonésie. Cependant, la province Nusa Tenggara Est a réussi à se placer dans la zone à faible risque, zone jaune, sur la carte de répartition du COVID-19. En fait, les données nationales COVID-19 au 24 juin 2020 montrent que Nusa Tenggara Est n'a toujours pas enregistré de cas positifs supplémentaires de COVID-19 au cours des derniers jours. Porte-parole du groupe de travail Nusa Tenggara Est COVID-19, Dr. Jelamu Ardu Marius, a expliqué jeudi que la clé de succès de la mise en œuvre des protocoles de santé en Nusa Tenggara Est est la sensibilisation du public. Ceci est également soutenu par la supervision des régions et de l'appareil régional sur la circulation des personnes entre les régions. En outre, la socialisation régulière des protocoles de santé dans divers médias en masse, conventionnels et nouveaux médias, est une stratégie visant à réduire la propagation des cas positifs. Ensuite, l'info de Surabaya, Java Est. Les lieux de loisirs et de divertissement public de la ville de Surabaya peuvent être ouverts tant qu'ils satisfont aux exigences énoncées dans le règlement numéro 28 de 2020 du maire de Surabaya concernant le nouvel ordre normal. En outre, le propriétaire du lieu de loisirs et de divertissement public est également tenu de procéder à une auto-évaluation, puis de se présenter au bureau de la culture et du tourisme de la ville Surabaya pour une évaluation. La directrice du bureau de la culture et du tourisme de la ville Surabaya, Antik Sugiyarti, a déclaré à Radio République Indonésia mercredi que chaque récréation publique doit soumettre une lettre de soumission au bureau de la culture et du tourisme pour un examen des procédures liées à la préparation des locaux commerciaux dans la mise en œuvre des protocoles de santé. La lettre de soumission qui a été saisie et ensuite effectuer une analyse administrative ou l'exhaustivité de la licence commerciale. Si les exigences sont remplies, l'équipe du Bureau de la culture et du tourisme vérifie le domaine ou la place d'affaires. La dernière info est venue de Palangkaraya. Le gouvernement a déterminé l'emplacement du projet de l'ex-tourbière dans les régions Pulang Pisau et Kapuas, Kalimantan Central, pour le projet stratégique national pour le domaine alimentaire. Ce programme de domaine alimentaire vise à soutenir la sécurité alimentaire nationale. Le domaine alimentaire est un développement alimentaire intégré qui comprend l'agriculture, la plantation et même l'élevage dans une zone. Le président du Comité national de la jeunesse indonésienne de Kalimantan Central, Rahmat Handoko, a déclaré à RRI mercredi, espérant que le programme serait en mesure d'améliorer l'économie des résidents locaux autour du projet. En outre, dans la zone du domaine alimentaire qui sera construit, il est préférable d'utiliser la main-d'œuvre locale qui existe déjà à Kalimantan Central. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 27 juin. Le 27 juin 1954, la centrale nucléaire Obninsk en Union soviétique est devenue la première centrale nucléaire au monde à produire de l'électricité à 5 kW. Deux ans plus tard, une centrale nucléaire a été construite et exploitée avec différentes fonctions au Royaume-Uni. Tandis qu'en France, le premier centre d'opération nucléaire a été exploité et a commencé la production à Chinon en 1963. Le modèle de technologie nucléaire est alors devenu une tendance pour l'énergie dans le monde entier, bien que les coûts d'utilisation et de production aient augmenté pour être chers aux ans 70-80. Enfin, la catastrophe de Tchernobyl en 1986 a incité les gens à repenser l'utilisation du nucléaire comme générateur d'énergie. Le 27 juin 1993, l'attaque des États-Unis à Bagdad. Le 27 juin 1993, à l'aide de 23 missiles à longue portée, les États-Unis ont attaqué la ville Bagdad et ses environs. Cette attaque a été lancée parce que les États-Unis ont accusé le régime de Saddam Hussein d'être impliqué dans la tentative d'assassinat du président des États-Unis de l'époque, George Bush Sr., lors d'une visite au Koweït en avril de la même année. Dans cette attaque, 6 civils irakiens ont été tués et le bureau d'une agence de sécurité irakienne a été endommagé. Le 27 juin 1997, Rahmonov et Abdullah Nur signent la paix. Le 27 juin 1997, le président du Tadjikistan, Imam Ali Rahmonov, et le chef des combattants islamiques du pays, Abdullah Nur, ont signé un accord de paix à Moscou. Avec la signature de l'accord, une guerre civile de 5 ans au Tadjikistan a pris fin. Environ un an après l'indépendance du Tadjikistan, en 1991, à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique, un conflit a éclaté entre des groupes qui voulaient diriger un gouvernement islamique au Tadjikistan avec des groupes pro-russes. Ce conflit a finalement éclaté en une guerre civile qui a fait de nombreux morts. L'ONU, l'Iran et la Russie tentent de devenir des médiateurs entre les deux groupes qui ont finalement réussi à signer l'accord de paix en 1997. Sur la base de cet accord, 30% des postes gouvernementaux ont été attribués à des groupes islamiques et leurs armées islamiques ont été incluses dans l'armée du Tadjikistan. En outre, un amendement a également été apporté à la constitution du Tadjikistan, qui tient compte de la volonté des groupes islamiques. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Percaya dalam gelap. ik heb die happy. Oh, tak akan ku berhenti mengarungi darah sidu bindi. Oh, oh, berjalan dalam gelap sinar kau nyala, harapan kan ada. Berhentilah berputus asa, berhentilah berputus asa. Berjalan gelap, harapan kan datang membawa terang. Hidup ini sangat berarti. Oh, oh, tak ingin ku berhenti berbisik. Percaya dalam gelap, sinar kan menyala, harapan kan ada. Berhentilah berputus asa.
Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voice.id. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et en titre, le ministère du Commerce encourage les membres de l'APEC à jouer un rôle actif dans la lutte contre l'impact de COVID-19. Le ministre du Commerce, Agus Suparmanto, a encouragé les organisations économiques mondiales à jouer un rôle actif dans l'accélération de la manipulation des impacts sur la période et post-épidémie COVID-19. À cette fin, le ministère du Commerce, par l'intermédiaire de la Direction générale des négociations commerciales internationales, continue de participer activement à la lutte pour l'accélération de la gestion de la pandémie de COVID-19 et de la reprise économique dans le cadre du Forum de coopération économique Asie-Pacifique, CEAP. Comme l'a déclaré Agus Suparmanto dans un communiqué publié le mercredi 24 juin, selon lui, l'unité, la synergie et la collaboration sont essentielles pour surmonter l'impact de COVID-19. Les ministres économiques du commerce de la CEAP sont convenus de la déclaration sur COVID-19 par les ministres responsables du commerce de la CEAP le 5 mai 2020. Cette déclaration est devenue une déclaration d'accord commune sur l'impact de la pandémie de COVID-19 dans la région Asie-Pacifique. Suite à un accord avec les ministres, le comité du commerce et de l'investissement de la CEAP a tenu une réunion extraordinaire virtuelle de mardi 23 juin. Le directeur des négociations de l'ASEAN, Direction générale des négociations commerciales internationales, Antonius Yudi Triantoro, en tant que président de la délégation indonésienne, a déclaré que la déclaration des ministres du commerce est une forme de réponse rapide des membres économiques de la CEAP pour surmonter l'impact de la pandémie de COVID-19. Plus précisément, pour améliorer la facilitation des échanges, renforcer les chaînes d'approvisionnement et l'utilisation de la technologie numérique. Yudi a déclaré que la réunion s'est concentrée sur les efforts et les initiatives économiques des membres pour accélérer la gestion de l'impact de la pandémie de COVID-19 en trois étapes. Premièrement, la facilitation du commerce des dispositifs médicaux, des produits agricoles et des denrées alimentaires. Deuxièmement, augmenter la résistance de la chaîne d'approvisionnement. Troisièmement, offrir une mobilité aisée aux hommes d'affaires et aux agents de santé. Selon Yudi, le forum de la CEAP doit avoir un programme de victoire rapide qui se concentre sur le renforcement de la facilitation des échanges et la gestion des barrières non tarifaires croissantes. Le renforcement du programme de travail principal de la CEAP, l'échange d'informations sur les politiques entre les membres économiques de la CEAP et le renforcement des activités de renforcement des capacités pour faire face à la pandémie devrait accélérer la reprise économique dans la région Asie-Pacifique. Chers amis, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
See you.
nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis, voici le magazine culturel ayant pour titre Rivière Niama, Tulung Agung, Javaise. La province Java orientale possède de nombreuses attractions naturelles intéressantes à ne pas manquer, allant des plages exotiques, des montagnes majestueuses aux cascades instagéniques. Cette fois, nous vous présenterons l'une des belles attractions touristiques, la rivière Niama. Bien que le nom semble de style japonais, la rivière Niama n'est pas située au Japon, mais est située dans le village Bezole, district Besuki, région Tulung Agung, Java Oriental. En japonais, ni signifie deux et yama signifie montagne. Dans l'ensemble, la signification du nom est la rivière qui se trouve entre deux montagnes. La rivière Niama a une profondeur d'environ 2 à 3 mètres. La beauté de cette rivière est indéniable. De grandes roches disposées aux hasards, une eau de rivière claire et un cadre naturel magnifique rendent cette rivière Niama instagénique et peuvent apporter la paix. Pour les touristes qui veulent profiter de la beauté de la rivière Niama, vous devriez visiter pendant la saison sèche, parce qu'à ce moment-là, les rochers seront clairement visibles. La gradation de la couleur de l'eau de la rivière sera également belle, tandis que pendant la saison des pluies, l'eau deviendra trouble et les courants seront tendus et dangereux. Pour se rendre à la rivière Niama n'est pas trop difficile. Il suffit de suivre les instructions. La route qui était passée est également lisse et fraîche car il y a beaucoup d'arbres verts. En outre, l'accès à la rivière Niama est assez facile. Il n'y a pas de partie officielle qui gère cette zone touristique. Pour profiter de la beauté de cette rivière, les visiteurs ne doivent pas payer de tickets d'entrée. Chers amis, c'était le magazine culturel.
Cintai diriku seperti aku. sejujurnya. Jangan pernah kau meragukan ketulusan hasrat cinta kita berdua.
Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur et en sous-titre. Les sites touristiques naturels sont ouverts progressivement. Le président du groupe de travail national pour l'accélération de la manipulation de COVID-19, le lieutenant général des forces armées indonésiennes, Doni Monardo, a annoncé que les zones de tourisme naturel du pays seraient progressivement ouvertes pour commencer des activités écosystémiques et de conservation présentant le niveau de risque le plus faible. La zone de tourisme naturel comprend les zones de tourisme marin, les zones de conservation de l'eau, les zones de tourisme d'aventure, les parcs nationaux, les parcs de tourisme naturel, les grands parcs forestiers, les réserves fauniques et les géoparcs. Le tourisme de nature non conservation comprend les jardins botaniques, les zoos, les parcs de safari, les villages touristiques et les zones de tourisme de la nature gérées par la communauté. Actuellement, la zone de tourisme naturel dont l'ouverture est autorisée et la zone de tourisme naturel située dans la région et les villes de la zone verte ou de la zone jaune, alors que d'autres zones seront aménagées conformément à l'état de préparation régional et aux gestionnaires de zones. La décision d'ouvrir le tourisme naturel dans 270 districts et villes des zones vertes et jaunes a été laissée aux régions et maires respectives. Les gestionnaires des zones de tourisme naturel doivent préparer des protocoles de gestion de la santé et des crises et effectuer un suivi et une évaluation pendant les phases de pré-condition et de mise en œuvre. Si, au cours de son développement, un cas de COVID-19 est trouvé ou une violation des dispositions dans le domaine du tourisme naturel, l'équipe du groupe de travail du district et de la ville se resserrera ou se refermera après consultation avec le groupe de travail provincial et le groupe de travail central. Cher ami, c'était l'Indonésie en couleur.
Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu, aku persembahkan hidupku untukmu. Thank you.
Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. On se retrouve avec moi Tiwi dans le magazine musical. Cette édition, je vous présente la chanson originale de Kroncong intitulée Merah Delima. Bien que certains chanteurs de Kroncong indonésien l'aient chanté, il n'y a aucune information sur qui a créé. Merah Delima raconte d'une bague rouge comme une grenade. Une bague circulaire à l'annulaire est signe d'amour pour un couple. Il gardera et sauvera la bague Ruby comme une promesse contraignante jusqu'à la fin de sa vie. Cette chanson est chantée par un chanteur de Kroncong indonésien qui a un fort caractère vocal, à savoir Toto Salmon, avec l'accompagnement de Oka Bintang Jakarta, dirigé par Budiman Bijé. Bon, chers auditeurs, voici Toto Salmon avec la chanson dont le titre est Merah Delima, ou en français La Bague Ruby. Bonne écoute!
Thank you.
Voice of Indonesia.
Voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.